Parce que là, il y a les deux sens du bus qui passent au même endroit.
Non, je crois que c'est une erreur.
Il va à Saint-Ply.
Non, même pas.
Ouais, c'est 603 qui passe par Romain.
Ouais, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que soit on remonte au prochain arrêt. En fait, on aurait dû prendre la voiture.
Donc là, si tu veux mettre les gens qui vont écouter à jour sur ce qui s'est passé, faire un petit résumé de la situation.
De là, le bus.
De là, le petit pataquès qui nous est arrivé.
Et du coup, là, il a plu. Du coup, on a cherché un arrêt de bus le plus proche. Et du coup, on est tombé sur l'arrêt Le Château. On pensait que le 601... comme c'est indiqué en fait derrière, qui est direction le Rhincy, mais en fait il est direction Montfermeil. Sinon le 642 il passe dans 14 minutes et le prochain 602 nous emmène pas là où on veut. Donc du coup va falloir marcher pour trouver un autre arrêt de bus. Sous la pluie.
C'est là-bas, hein. 601.
Lequel?
Pour aller à Montfermeil.
Non, pour aller au Rhincy justement.
Rhincy c'est là-bas.
Ouais, c'est là.
T'en as un là, par
là, côté, là.
Ouais.
Non, il faut aller, tu sais, tout droit. Mais
oui, tout droit, donc ouais.
Ici, si on continue.
Bah alors, on va y aller tout droit. On va faire ça. Mais oui.
Ouais, mais là, j'étais là, je te protège.
Bon, on va y aller.
On peut attendre et... C'est quoi la suite de la météo, à votre avis? Vous avez une idée?
Oh, ça.
Franchement, je sais
là,
pas.
Le bus
qui emmène?
Ouais.
Il va jamais s'arrêter, hein. Il fera jamais ça.
Ah, monsieur.
Il fera jamais ça.
Est-ce que ça c'était le bon?
Oui, il est loin l'arrêt, il s'arrêtera jamais ici. L'arrêt est plus loin.
Bah, il tient, il détourne.
Bon, on a de la chance que ça s'est un peu calmé.
Ouais.
Un petit peu.
Bon, ça va.
Non, là, il n'y a pas de
soucis. C'est drôle, hein, c'est comme une fin quand même. Parce que derrière, tu sais qui a écrit le Rhincy?
Ouais, bah moi j'ai toujours cru que c'était par là, je crois pas. Tu sais, avec cette déviation là, je comprends plus rien.
Oui, et puis il y a plein de déviations du coup.
Mais oui.
Ok.
Donc vous êtes quand même super experte, enfin bon.
Ah bon?
Là, on va dire, on ne sait pas trop, mais a priori, vous êtes experte un peu des lignes de bus, quand même.
Ah, moyennement, moi, c'est... Moyennement. Depuis que je conduis, disons que j'ai perdu un peu l'habitude, mais avec les travaux aussi, avec les déviations qu'il y a, c'est impossible de se repérer.
Je vais encore être critique, mais il n'y a que des bus, donc du coup, heureusement qu'on a un peu experte en bus.
Ouais, c'est vrai.
Il n'y a pas de tram, il n'y a pas de métro, donc le peu qu'il y a, il faut qu'on soit experte.
Ça va changer.
Je suis là, le pessimisme en personne n'est pas le petit côté optimiste.
Il y a un tram là, un futur métro à Montfermeil.
Oui, mais j'habiterai plus à Clichy-sous-Bois. Enfin,
hey, ouais, c'est ce que j'ai
dans des années. J'aurais fini mes études, j'aurais tapé 3 heures de transport aller-retour. Enfin, tu vois, genre j'aurais donné de l'énergie dans les transports en commun. Parce que juste notre ville, elle est complètement décentrée.
Je suis Sarah et je travaille aux ateliers Médicis depuis le mois de septembre. Je participe à l'équipe projet. Donc je suis coordinatrice de projet pour les ateliers Médicis.
De quoi, du coup, comme projet ?
Projet artistique. Donc ça regroupe un certain nombre de projets qui... Ça peut, ce sont à la fois les projets liés aux artistes et chercheurs associés, donc le programme des artistes et chercheurs associés, mais ce sont aussi des projets qui peuvent être plus circonstanciels, comme les temps suspendus, donc en particulier sur les actions de diffusion et les actions de création qui sont au cœur des ateliers Médicis.
Alors, on est où ?
Alors, ici, on est au 2 Allée Romain Rolland, donc face au centre équestre et à quelques dizaines de mètres du marché de Clichy-sous-Bois et à quelques dizaines de mètres du collège et du lycée avant à quelques dizaines de mètres aussi de la route nationale 3 qui part vers Paris.
Et devant nous, le long de la rue, il y a des travaux.
Oui, il y a des travaux du tramway, du T4, travaux qui sont tout au long, donc, qui sont tout le long là, de l'allée Romain Rolland et qui ensuite là-bas aboutissent à la tour de Trio, qui est donc pour nous le futur emplacement du bâtiment des ateliers Médicis en 2024, horizon 2024.
Et alors, qu'est-ce qui se passe au 2 ? On peut rentrer dans le 2 Allée Romain Rolland.
On peut rentrer dans le 2 Allée Romain Rolland. Il y a une porte coulissante qui s'ouvre sur un rez-de-chaussée composé de plusieurs cabinets médicaux. Donc ici, il y a des infirmières et deux médecins qui sont parmi les rares médecins d'ailleurs de Clichy-sous-Bois. Donc consultation très prise. Et si on monte, on va donc prendre les escaliers. Alors au deuxième étage, là où on n'ira pas, il y a donc plusieurs structures, notamment les bureaux qui permettent d'avoir des informations, en tout cas les bureaux de renseignement pour le tramway 4. Nous, on va s'arrêter au premier étage. À gauche, il y a donc le cabinet du docteur Néhari, qui est médecin psychiatre. Et à droite, il y a la porte des ateliers Médicis, autrefois destinée à être des bureaux pour le pôle emploi.
Tu vas badger ?
Je badge. Ça fait peu de temps qu'on badge. On avait simplement besoin que la porte puisse se refermer assez souvent. Donc, on entre dans le couloir des ateliers.
Il faut qu'on en parle, voilà.
Voilà, donc on croise Cécilia au téléphone avec un photographe. Et puis, sur notre droite, quand on rentre, on a ce panneau, ce qu'on appelle les fameux mood boards. Ce sont nos espaces d'expression à nous. On peut punaiser ce qu'on souhaite. Celui-ci est consacré aux artistes et chercheurs associés.
Qu'est-ce qu'elle représente, cette photo ?
Alors, cette photo, là-haut, on voit Julien, revenu, incarné sous le bras, incarné de croquis sous le bras, qui regarde un enfant, un jeune ado, qui a 11 ans, qui lui-même est en train de dessiner le paysage qui est devant eux. À la gauche, à leur gauche, il y a un autre jeune ado qui est assis dans l'herbe. Et donc, devant eux, s'étale un paysage, c'est dans la forêt de Bondy. Donc là, on ne voit que des arbres. En réalité, ce qu'on ne voit pas sur cette photo, c'est le paysage qu'ils sont en train de dessiner. C'est un étang qui est en contrebas. Et c'est lors d'un atelier, donc ils ont dessiné, ils ont appris à croquer très rapidement, de manière un peu instable, ce qu'ils voyaient. Et ce qu'ils voyaient dans la nature, la forêt de Bondy.
C'est un plan... c'est un plan du secteur de Clichy-sous-Bois où nous sommes implantés, où les ateliers Médicis sont leurs bureaux pour l'instant. Il me semble, parce que je reconnais le McDo, c'est la carte d'Abderrahman Mahamadi. Donc c'est un dessin d'un enfant, c'est ça, qui a refait le plan le plan d'ici, on voit le centre social, le garage Balzac, l'allée du renouveau, je ne la connais pas. On voit le stade, la mosquée, l'allée Romain Rolland, donc ça c'est là où, où on est implanté nous, le marché qui est un grand... un centre assez important en fait pour Clichy et Montfermeil, parce que Montfermeil est en fait juste, juste à côté du marché qui est sur le territoire de Clichy-sous-Bois.
Bah, je suis Clément Bostec. Je travaille aux ateliers Médicis depuis le début de la nouvelle version. Donc quand on dit ça, ça interroge pas mal. Ça veut dire que j'y travaille depuis début 2016, enfin en réalité fin 2015, parce qu'en fait je participais au laboratoire expérimental en art et politique à Sciences Po, animé par, conçu et animé par, créé et animé par Bruno Latour, entre autres. Et on a choisi des commandes sur lesquelles travailler, enquêter. Et parmi ces commandes, il y avait. Olivier Meneux avait présenté le projet de Villa Médicis à Clichy-Montfermeil. Et il proposait au SPIP de travailler sur le lien entre le projet et. Moi, j'ai retenu qu'il avait dit. Entre le projet et la configuration d'un espace public ou de l'espace public, enfin je sais plus très bien, puis il y avait une note écrite aussi, mais en tout cas c'était vraiment la question, le projet et l'espace public, mais le verbe configurer ou reconfigurer, je sais plus exactement. En tout cas moi quand je le dis aujourd'hui, je dis dans la reconfiguration, parce qu'évidemment l'espace public, même si il répond pas exactement à nos attentes ou nos repères ou nos habitudes ou nos souhaits, il existait, simplement il a une nature ou un état ou une qualité particulière.
Quatre autres
portes. Un espace de réunion et espace de stockage. Où on voit pour l'instant les publications qui ont été faites pour à l'occasion de la commande photographique des Regards du Grand Paris. Et on a aussi derrière ce petit ce rideau donc qui sépare la pièce en deux entre espace de stockage et espace de réunion, on a tout le reste. Des cartons, des vélos, des boîtes, des choses dont on ne sait pas vraiment ce que c'est. Des cintres, des œuvres en fait, parce qu'on a aussi des œuvres qui ont été exposées notamment pendant le mois d'avril et qui sont stockées ici pour l'instant, soit en attente de rejoindre le FNAC, le Fonds National d'Art Contemporain, soit en attente d'une autre exposition qui n'est pas encore prévue. On a les plans du lieu éphémère aussi.
Les anciens.
Du coup, tiens, on peut le regarder un peu, ce plan
On pourrait, mais ça, c'est l'ancien, donc il est plus valable.
Il est plus d'actualité. Bah, si t'as un autre, ouais, si oui, t'as un autre plan à un moment donné.
De l'autre côté.
J'adore les plans. Il y a aussi un gros carton au milieu de la pièce.
Oui, un gros carton qui contient, je crois, une brouette ou quelque chose comme ça, un truc pour transporter. Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est les roues des vélos du triporteur.
Vous avez un triporteur?
On a un triporteur pour un des projets de Matt Martin et Mathieu Simonet, les fameux totems, qui reçoivent des affichages toutes les semaines de paroles d'habitants. Et à la base, l'idée était que ces totems vivent des vélos et des triporteurs qui iraient comme ça accompagner les affichages dans la ville. Pour l'instant, c'est encore...
Pédale sur le triporteur.
Pour l'instant, justement, c'est Hugo qui travaille avec Malte Martin, mais le triporteur a quelques soucis
de stabilité
et de lourdeur. Donc pour l'instant,
il n'a pas eu un accident quand même, Hugo.
Non, pas encore, non. Mais je crois qu'on évitera peut-être l'usage du triporteur.
Ah ouais.
Alors, c'est plusieurs vues d'un lieu. Ce lieu, c'est le futur lieu et établissement des ateliers Médicis, lieu éphémère qui existera de février 2018 à 2024. qu'est-ce qu'on voit ? On voit donc une vue d'ensemble de ce bâtiment qui ressemblerait ce bâtiment pourrait ressembler à une forme de grange du fin fond des États-Unis.
Un petit côté bateau aussi.
Un petit côté bateau. Un toit rouge. Un toit en toile rouge avec une terrasse située tout en haut, ouverte.
Un hall d'entrée rouge aussi.
Un hall d'entrée rouge aussi. Donc une entrée et puis un bâtiment qui s'élève comme ça avec trois étages. Dans le plan de coupe, on voit que ces étages ils sont répartis en ateliers partagés, partagés entre les artistes et le public, en des bureaux évidemment, puis en une terrasse couverte mais ouverte sur le paysage à l'extérieur.
Et
une scène, voilà, une scène au rez-de-chaussée, une scène ouverte sur la Duisse. La Duisse, qui est cette promenade verte qui traverse une grande partie de l'Île-de-France. Et cette promenade, il y a une porte sur le bâtiment qui coulisse et qui s'ouvre complètement sur la promenade.
Faut que tu claques.
Yes.
En fait, on se réunit souvent ici parce que c'est notre lieu, ce sont nos bureaux provisoires et on a une grande table, donc c'est pratique. Mais les artistes et chercheurs, ils sont associés au projet pour justement développer de la relation avec l'extérieur. Et les artistes sont notamment des intercesseurs, notamment des intermédiaires, des passeurs, des opportunités, des catalyseurs, eux ou les projets qu'ils mettent en place. Ou les situations qu'ils créent, que ce soit plus ou moins impromptu, plus ou moins préparé. C'est à travers les projets des artistes qu'on souhaite fabriquer des relations. À tous les niveaux, d'ailleurs, que ce soit pour que des habitants participent au projet, ou pour que l'administration ou la production se retrouve à travailler avec des interlocuteurs locaux. Voilà.
Ouais. Donc c'est comme un... C'est ça les antennes, en fait.
Ouais.
En quelque sorte.
Ouais, ouais.
C'est un interstice.
Ce sont eux, personnellement, et les dispositifs qu'ils mettent en place. Donc les dispositifs, c'est comment les projets s'incarnent, se matérialisent, quoi. Ça peut être les totems de Malte Martin et Mathieu Simonet. Ça peut être l'enquête que mène Till Roskens parce qu'il va bientôt transformer tout ça en un conte qu'il va raconter dans l'espace public. Ça peut être... l'office du tour rêve, c'était un office du tourisme un peu d'un nouveau genre ici à Clichy-sous-Bois et Montfermeil que préparent Joséphine Lebar et Barbara McCoy. Ça peut être les enquêtes respectives que mènent les auteurs, Marianne Rubinstein, Julien Revenu avec tous ses croquis, ses dessins, Kaoutar Archie, Elsa Vivant aussi à sa manière.
Donc cette fenêtre donne sur le bureau d'Olivier Meneux, qui est le directeur général des ateliers Médicis. C'est une fenêtre encastrée dans une cloison en bois qui donne sur un bureau en bois, bureau dans lequel on voit un tableau Velleda sur lequel énormément de schémas et de dessins sont faits, bureau dans lequel on voit Olivier Meneux travailler sur son ordinateur et derrière lequel on aperçoit un fragment de paysage qui est le parking qui donne derrière nos bureaux et des arbres. Voilà.
Et qu'est-ce que ça pourrait être, à ton avis, Cécilia, ce tableau ? Qu'est-ce qu'on voit dessus ?
Je pense qu'on voit la planification de... en tout cas des... essais de planification des ateliers Médicis sur un très long terme. Donc c'est un petit peu le bureau où se joue et se discute et s'invente l'avenir des ateliers Médicis. Comme on a pu voir, c'est un projet qui va s'étendre sur de longues années.
Parce que là, on voit en fait, il y a des cases.
Il y a des cases bleues, des cases rouges, des cases vertes, des choses qui pourraient ressembler à des plans, il y a presque des plans de des cartes comme on a vu tout à l'heure.
Oui, on voit des listes. Si c'est une échelle, ça pourrait être presque un plan de meuble.
Oui, ça pourrait.
Avec des côtes.
Mm-mm. C'est peut-être ça d'ailleurs, parce que ça fait partie tout à fait du voilà, de l'avenir des ateliers Médicis. C'est aussi l'avenir architectural du lieu éphémère dont on a parlé, mais aussi du lieu cible, de celui où on emménagera après le lieu éphémère, qui sera la place de la Tour Utrillo, et qui est donc aussi un chantier qui a déjà en fait démarré dans ce bureau-là, en tout cas.
Oui, il y a double construction, quoi.
C'est ça. Il y a double construction, et puis il y a les constructions physiques et les constructions de projets, les constructions de liens aussi avec le territoire, avec les acteurs, avec les publics. Donc ça, je pense qu'il y a un petit peu de tout ça dans ce tableau Velleda.
Je pense que je laisse Olivier travailler parce que ça, comme on entend très très bien, on a très bien la fenêtre.
Ah, c'est vrai.
Ouais.
Je croyais qu'on n'entendait pas.
Si, on entend très très bien.
On entend, oui, c'est vrai.
C'est juste qu'il est en plein...
Boom.
Oui, plein boom.
Mais là, il y a un bureau vide.
Il y a un bureau vide, mais qui...
C'était je ne sais plus quel jour, possiblement.
C'était un samedi.
En avril, peut-être, quelque chose comme ça.
Un samedi, je crois.
Un samedi, ouais.
Un samedi 8 avril.
Samedi 8 avril, tu t'en souviens? Et il y avait ce jour-là... pas mal d'événements. Il y avait un vernissage d'une exposition photo.
Oui, l'inauguration de l'exposition photo, donc le mois de la photo et les regards du Grand Paris, exposé au Bosquet. Il y avait des ateliers qui accompagnaient l'ouverture de l'exposition. Il y avait le live de Du.
Et on avait prévu d'enregistrer le live, mais on a foiré l'enregistrement. Donc, en fait, on n'a que des fragments. C'est pour ça que je suis revenu aujourd'hui, pour pouvoir compléter et refaire des enregistrements. Donc, comme tu n'étais pas là...
Non, je n'étais pas au live.
Et alors, est-ce que je peux te demander, avec mon petit dessin, d'essayer de décrire, finalement, comment ça se présentait, cette affaire?
Alors, comment ça se présentait? Eh bien, dans cette pièce, cette minuscule pièce normalement dédiée aux réunions, se tenaient au centre les photographies de l'exposition, donc sur une table, les photographies de l'exposition des regards du Grand Paris, étalées probablement sur la table, support à discussion entre différents intervenants, qui, donc, autour de cette table, devant un micro chacun, se tenait, donc, en entrant dans cette salle, tout au fond, sur la droite, Cécile Portier, chef de projet aux ateliers Médicis, Julie Balaguet, photographe de la commande des Regards du Grand Paris, qui se tenait sur la gauche de Cécile, devant un micro, qui devait sans aucun doute commenter les photographies de l'exposition dont elle faisait partie, discuter avec Cécile et Malte Martin, qui donc se tient à l'extrémité de la pièce. Malte Martin, artiste associé aux ateliers Médicis. De l'autre côté se tenaient donc Alexandra Cohen et Axel Meunier, de Du. Et tout au bout de la pièce, la partie technique, devant la fenêtre, donc Simon Ripoll-Hurier et Boris Ingesson pour Du, qui sont devant leur console. Et là, sur le schéma, je peux lire qu'il y a deux interventions sous forme de lancement de musique.
Vous êtes sur Du, unité radiophonique mobile. Il est 15h. Nous sommes en direct de Clichy-Montfermeil. Clichy-sous-Bois et Montfermeil, deux villes réunies par un trait d'union en une seule expression, Clichy-Montfermeil. J'imagine qu'il a fallu apprendre à dire ce mot nouveau, et puis c'est devenu facile, Et puis très vite, c'est comme si on avait toujours dit Clichy-Montfermeil. On s'y est habitué et l'on sait de quoi on parle. Un nouvel usage est né. Dans le champ du design, un scénario d'usage est une histoire illustrée expliquant comment utiliser un produit ou un service qui n'existe pas encore. Peut-on parler de scénario d'usage dans le champ de l'art ? Bienvenue à tous et merci aux ateliers Médicis d'accueillir du radio à l'occasion des troisièmes temps suspendus, intitulés des rencontres et des images à Clichy-sous-Bois et Montfermeil, qui se déroulent à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 29 avril. Avec moi autour de la table, il y a quatre personnes qui ont gentiment accepté de participer à ce direct.
Quand tu m'introduis comme designer et plasticien.
Malte Martin.
Parce qu'a priori, la question de la valeur d'usage est liée à la question du design qui lie, justement, qui a cette capacité de lier un acte de création à une valeur d'usage, là où on pense a priori l'art en dehors de cette catégorie de la valeur d'usage, libre comme l'air. Mais du coup aussi avec ce risque peut-être de tourner sur lui-même. Et peut-être la question que tu poses, c'est celle-ci. Est-ce que l'art peut avoir quelque chose à dire au monde ?
Première sélection musicale de l'émission. Alors aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est les liens entre la musique et la ville. Peut-être plus particulièrement avec la notion du quadrillage du territoire. On va commencer par une comédie musicale. Alors la comédie musicale, c'est traditionnellement très urbain, en tout cas très lié à la ville en général ou à des villes en particulier, comme New York par exemple, et au fait de construire un rythme commun, une harmonie commune entre des corps et des éléments qui composent cette ville. Évidemment, souvent sur le mode de la célébration et hédoniste, ou très souvent très optimiste. Donc c'est un extrait musical tiré d'un film qui s'appelle On the Town, Un jour à New York en français, un film de Stanley Donen qui date de 1949. Stanley Donen, il est très connu pour avoir réalisé Chantons sous la pluie. On the Town, c'est avec Gene Kelly, Frank Sinatra et Jules Munchin. Et le pitch, disons, c'est des marins qui arrivent à New York, qui ont une permission de 24 heures. Et en 24 heures, il faut tout faire. Il faut visiter le plus d'endroits possible, évidemment, séduire des filles, et donc voilà, 24 heures de tourisme et de drague. Et la chanson éponyme, donc, dont on va écouter un extrait, s'intitule On the Town, et c'est intéressant parce que ça peut autant se traduire par quelque chose comme Cap sur la ville, que par À propos de la ville, comme une sorte d'essai sur la ville. Et la chanson est une sorte de description d'un espace urbain et d'un certain rapport à cet espace. Donc il y a une liste des lieux de New York et un usage du champ lexical maritime, quoi, des points cardinaux, de la navigation, etc. Et donc on écoute tout de suite un extrait, parce que c'est un peu plus long que ça, un extrait de On the Town, 1949. Whoa, whoa, we're going on the town, New York, we're riding on a rocket, gonna really sock it. Because tonight's the night. We're going on a toot. We're gonna raise a riot. The Brooklyn Bridge, we'll buy it. And hit the heights tonight. Get high as kites tonight. East side, west side, round the city. Before had any fun before. Hush, hush, sway, squash, Bruce and Seller.
Je suis une habitante de Clichy-sous-Bois, donc j'ai grandi ici. Oui, je suis allée au lycée Alfred Nobel. Donc après l'obtention de mon bac littéraire, j'ai fait des études d'histoire. Donc j'ai obtenu une licence d'histoire. J'ai poursuivi mes études en m'inscrivant au CAPES, à la préparation au CAPES d'histoire-géographie, que j'ai tenté d'ailleurs cette année et que je n'ai malheureusement pas obtenu. Donc oui, les résultats étaient en mai, donc après des résultats négatifs, j'ai décidé de me reprendre en main, de chercher du travail, etc. Donc l'offre des ateliers Médicis s'est proposée et que j'ai saisie aussi. Et du coup, donc là, on a été engagée en tant que médiatrice pour les ateliers Médicis. Donc on est là jusqu'au 9 juillet. Au moins, pour présenter les ateliers Médicis, aller à la rencontre des habitants et les faire participer à de nombreux événements qui s'annoncent.
Je m'appelle Sakina Barry, j'ai eu ma licence de lettres modernes à Paris 3 cette année. Je suis passionnée d'écriture et pour juin-juillet, je travaille en tant que médiatrice culturelle aux ateliers Médicis. Donc l'idée, c'est de rendre accessible ce qui peut paraître inaccessible, en fait. Donc tu vois, le totem, il est là-bas.
Ah oui.
Avec des couleurs.
Et en face, il y a la fresque que j'ai. Derrière le bois de Jolie.
Je cherche un endroit où il y a juste un petit peu moins de vent, parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Je me demandais si... Ouais, peut-être là c'est mieux. Alors, est-ce que l'une ou l'autre, celle qui veut, peut juste me décrire un peu où on est, en fait, de décrire ce qu'on voit alentour, si on balaye le regard comme tu viens de le faire en rond, on voit quoi?
Je regarde la rue, c'est...
Non mais ce qu'on voit d'ici, Sakina.
Ça va, je sais pas. C'est bon, je suis là. Du coup, ouais. Alors, tu veux brasser ma main ou...
Vas-y.
On est entouré d'arbres. On peut voir en face, à l'entrée du... Bois de Bondy, la fresque de JR. Il y a aussi l'arrêt de bus Les Bosquets, donc on est au Bosquet. Il y a les totems. Il y a des travaux quand on se tourne, quand on tourne le dos à la fresque. Et
décris un peu ce lieu de travaux là, qu'est-ce qu'on voit?
Je sais pas ce qu'ils sont en train de construire en fait là. Je sais pas du tout ce qu'ils construisent en fait.
On est pas très loin du marché.
continue par là. On arrive pile poil au marché. On a donc les tours Trio aussi. Là, on a la maison de l'habitat, juste là.
Qu'est-ce que c'est ?
La maison de l'habitat ? Je sais pas du tout.
Aucune idée.
Maison de l'habitat ? Non, je sais pas.
Mais c'est son nom, hein, elle s'appelle comme ça ?
Oui, c'est la maison de l'habitat, je sais pas. Je connais pas trop. Je sais qu'il y a un centre ici, puisque j'ai eu l'occasion de venir ici. En été, souvent, il y a la bibliothèque qui organise une bibliothèque en plein air, en fait. Donc, il vient, qui s'installe. Et on était venu ici rencontrer des jeunes enfants pour leur donner un accès aux livres, etc. Donc à la bibliothèque en plein air, là, ici, vers la Duise aussi. Donc là, oui, on voit des travaux, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. C'est vrai qu'ici, avant, c'était vide. Il n'y avait rien de spécial. Il n'y avait ni square, ni quoi que ce soit. C'était complètement un terrain vide. Là, en ce moment, comme les deux villes... sont en plein travaux, du coup on sait pas trop, il y a tout qui se mêle, il y a les projets du tram, du T4, projet de métro, projet aussi du futur bâtiment des ateliers Médicis, donc on est un peu perdu en fait, il y a des travaux un peu partout.
Ça a beaucoup changé depuis que vous étiez enfant ?
Oui, beaucoup. Vraiment, par exemple, il y a la piscine à Clichy-sous-Bois de Rosa Park, ce qui n'existait pas avant. Il y a le collège Louise Michel qui a été complètement détruit et reconstruit. On a le gymnase aussi qui après... c'était quand qu'il avait brûlé ? Même année des émeutes, non ? 2005, qui avait brûlé, qui a été reconstruit. Donc il y a plein de nouvelles choses. Il y a le tram qui s'annonce. Il y a la rénovation quasi complète de Montfermeil qui a été embellie. Donc je trouve que ça a beaucoup changé.
On attend encore des structures culturelles, artistiques, sportives, parce qu'il n'y en a pas. Clairement, il n'y en a pas. Donc les rénovations, c'est plus, je dirais, au niveau des bâtiments et tout, encore heureux. Mais ça manque encore de plein de choses. Ok, ça bouge, mais ça manque encore.
C'est vrai. Sur le point, oui, culturel, c'est ce qu'on disait aussi. Il manque un peu de structure culturelle.
Alors, en parlant de structure, en face de nous, on a une structure.
Oui.
Est-ce que vous pourriez décrire la structure qui est en face de nous ?
Il y a quelque chose qui repose au sol. Je pense que c'est du bois et du fer. Et ça regroupe, en fait, plusieurs affiches. Sur lesquels, en fait, il y a des mots des habitants. En fait, Mathieu Simonet et Malte, en fait, ont élaboré un projet dans lequel on donne la parole aux habitants. Par exemple, ils avaient travaillé avec une classe de collégiens, me semble.
De sixième.
De sixième, avec lesquels Mathieu Simonet, écrivain, leur a demandé... comment ils voyaient Clichy-sous-Bois dans 40 ans, il me semble. Et donc, à partir de là, il y avait eu de très beaux textes. Et lors de l'inauguration, justement, du totem, ils avaient été lus.
Du coup, on peut s'avancer, puis on va lire ensemble ce qu'il y a d'écrit. Enfin, on va essayer de lire, parce que le premier truc qu'on voit, c'est quelque chose qui est écrit visiblement en japonais.
C'est aussi dans le projet, en fait. Ça va être... en fait, c'est traduit. Aussi, il me semble, chaque semaine, en différentes langues. Et se passe-t-il en 2024 ? Enfin, en 2024, en fait. J'ai dit 40 ans, je suis allée trop loin.
Et là, du coup, effectivement, l'affiche, elle a été recollée sur celle d'en dessous. Donc, est-ce que celle d'en dessous, c'était ce qu'aurait été dit en français ?
C'est ça. Celle d'en dessous, c'était en français. En fait, il était dit que... j'ai oublié la phrase exacte. Mais en gros, les deux villes entre Clichy-sous-Bois et Montfermeil, elles seront reliées par... des trains qui voleront dans le ciel, c'était quelque chose comme ça, et c'était très beau. Bon, c'est pas cette phrase-là, donc c'est pas ça exactement, mais je l'ai, je peux te la... Je peux te la donner.
Tu l'as en photo?
Ouais, je l'avais parce que j'étais allée justement à l'inauguration. Il faut juste que je la retrouve. Voilà, les deux villes n'en formeront qu'une, des trains circuleront dans le ciel. Donc ils ont répondu à la question que se passera-t-il en 2024.
Alors là, c'est sur un côté de la structure, et à part ça, sinon, il y a aussi des affiches qui sont peintes en orange.
C'est ça. Je pense que c'est pour attirer l'attention.
Est-ce qu'elles attendent, ou est-ce qu'elles attendent d'être remplies, ou alors elles vont rester comme ça?
Alors, aucune idée, je trouve. Attirer l'attention.
Franchement, quand on passe en voiture, par exemple, moi, je vois ça tout de suite, ouais.
Ouais, même on remarque, en fait, les voitures qui passent. Jette un coup d'œil, parce que justement, c'est imposant quand même comme structure.
Est-ce que l'une de vous pourrait lire ce qu'il y a d'affiché ici ?
Ici s'afficheront chaque semaine vos paroles et vos histoires.
Donc là, on a une histoire.
Tu veux la lire ?
Sur le chemin du retour, nous avons vu des enfants grimper sur le totem de la pelouse. La classe s'est manifestée haut et fort pour les déloger. Certains élèves sont allés les voir pour leur dire qu'ils avaient travaillé dessus et qu'ils ne devaient en aucun cas les abîmer. C'est une manière de posséder leur vie. Donc là, c'est vrai que à la pelouse, donc je pense qu'on fait référence à la pelouse de Clichy-sous-Bois, parce qu'il y a un totem qui est installé là-bas. Et on voit comment qu'ils tiennent en fait à cette structure, puisque faut pas aller la déloger, ni la toucher, ni l'abîmer. Donc voilà, c'est.
Et alors la fresque, est-ce que vous pourriez me raconter l'histoire de la fresque qui est de l'autre côté de la route?
La fresque raconte une histoire en fait. Je voudrais pas dire de bêtises, donc je vais pas me prononcer réellement en fait, sur ce qui est.
Ou alors, mais qu'est-ce qu'elle raconte?
Juste d'écrire, tu
pour
vois.
Toi, qu'est-ce qu'elle raconte comme histoire, du coup?
Je sais que ça parle, ça évoque aussi notamment après la mort de Ziad Ebouna, en fait, tout ce que ça a déclenché à Clichy-sous-Bois, la tristesse, la colère, et puis les émeutes qui ont suivi, ces événements qui sont tragiques. Et c'est ce sentiment d'injustice en fait qui a continué de régner et qui continue à régner en fait dans le cœur des habitants. Du coup, sur cette fresque, on peut voir plusieurs étapes en fait. D'abord.
Donc là, tu la lis de gauche à droite.
Ouais, je ferais plutôt ça. Ouais.
Là, il y a une scène d'émeute. Hein.
Clairement.
On la voit clairement. Avec l'intervention des pompiers, là on voit par exemple que là le jeune homme il tient la main d'un pompier quoi. Je sais pas si vous voyez, ouais. Là juste là, il y a une forme d'entraide quand même.
Le pompier qui est en bas, qui est de profil,
voilà.
Qui a le casque.
Exactement.
Et là où est-ce que.
Et là il y a le jeune homme qui est au centre, là au milieu des enfants,
ouais.
qui lui tend la main, je sais pas ce qu'il.
Ah oui, ok, ouais, carrément, ouais, je vois. Ah oui, je regardais le mauvais pompier, je regardais le pompier qui était en bas, là, à gauche, mais non, c'est le pompier, là.
Ah oui, d'accord.
Et donc, si on continue la lecture vers la droite, les émeutes, et après,
coup, là,
à la droite, il y a encore comme deux plans encore différents, ou même trois, peut-être.
Au centre, Siaka, du coup, le frère de Bouna, qui, on le reconnaît, qui est à genoux, là, et... qui a l'air désemparé, impuissant et triste.
Il se cache les oreilles comme si voilà, il voulait pas. Voilà, il supportait pas ce qui se passait. Quoi.
Et puis la suite, des jeunes qui prennent des photos de ces événements et puis des gens qui regardent. Des gens qui regardent, ça c'est très important je pense sur la fresque, le regard. Poser sur ce qui s'est passé.
Quels seraient les usages de l'art en dehors du champ de l'art? Tu vas en tirer trois.
Ok.
Et on va garder les trois catégories qui sont la première, le premier plan de la question, la deuxième,
bah, du coup, le plan potentiel, virtuel, ce qui est contenu dans la question mais qui apparaît pas tout de suite. Et la troisième, ça va être, disons, le plan médian, ce qui permet le passage entre un plan et l'autre. Ça va ?
Super.
Ouais. Alors, je vais te proposer de couper le jeu sur ta gauche. Et je vais étaler le jeu devant toi. Donc là, on va travailler avec les 21 arcanes majeures du tarot de Marseille qui s'étalent maintenant devant toi. Et tu vas tirer 3 cartes et les poser sur la table sans les retourner pour le moment.
Ok. Je les pose ici ?
Oui. Ramasser le reste du jeu. On va placer les 3 cartes au centre. Donc ça, c'est la première que tu as tirée. Donc c'est le premier plan de la question. Et c'est le mât. Ça, c'est la deuxième que tu as tirée. Et ça va être le plan potentiel de la question. Et c'est l'ermite. Et ça, c'est la troisième que tu as tirée. Et donc, ça va être ce qui permet le passage entre le mât et l'ermite. Et c'est la roue de fortune. Alors, c'est fou. Chaque fois que ça apparaît, c'est quand même vraiment étonnant, quoi. Donc, le mât, c'est la carte d'ouverture hein, des 21. Elle n'est même pas encore chiffrée. Elle arrive avant le battleur. Donc, c'est vraiment ce qui initie... disons le trajet, hein, c'est l'impulsion, c'est l'archétype du départ, et c'est un départ qui n'a pas besoin de savoir vers où il se dirige, c'est vraiment la pulsion, le désir de départ. Donc c'est un personnage qui porte un petit comment ça s'appelle ça,
un baluchon
exactement sur l'épaule, il a le bâton, il a le regard rivé vers le hors-champ de la carte. Et il y a ce chien qui lui retient vraiment au niveau des fesses hein, qui pourrait représenter en fait cette idée que malgré cette pulsion de départ très brut de décoffrage comme ça, tu pars jamais sans rien, tu pars jamais de rien, ce qui est aussi le baluchon sur l'épaule hein, y a... c'est pas tant une charge qu'une histoire. Donc il y a comme ça cette espèce de rapport dès le début du jeu de ce que l'on contient.
Est-ce que je peux moi du coup interpréter par rapport à ma question aussi, parce que
bien
moi ce à quoi ça me fait penser c'est les habitudes, tu sais, usage ça a deux mots, ça a deux sens,
ouais,
tu vois.
Ouais.
Il y a le sens d'utilisation, mais il y a aussi le sens de coutume, habitude, etc. qui sont des choses qui ancrent. C'est pas pour dire, par exemple, du coup, l'art a en fait plein d'usages parce qu'il y a plein d'habitudes dans lesquelles il
s'inscrit.
Voilà.
Ouais, tout à fait.
Du coup, il y avait un truc qui me faisait penser à ça.
Ouais, tout à fait. On va passer à l'ermite, qui est donc le plan potentiel. Alors, pour décrire un tout petit peu cette carte, on a un homme qui, pour le coup, regarde le mât, hein, le mât a le regard rivé vers l'ermite et l'ermite a le regard vers le mât, il tient une lanterne, il a aussi un bâton, c'est presque symétrique là entre les deux, et ce que fait l'ermite littéralement, c'est qu'il éclaire son passé en s'éloignant de lui, donc il avance vers le futur sans avoir besoin de le voir. Tu vois,
Donc il est, ce que tu veux dire, c'est qu'il est retourné en fait,
il regarde
derrière lui.
Il regarde derrière lui, donc il éclaire même derrière lui, mais il est en mouvement vers le futur. Et donc il a les yeux dans le dos littéralement. Et c'est une énergie beaucoup plus interne, beaucoup plus introspective que celle du mât. Le mât il part, peu importe. L'ermite il a déjà parcouru pas mal. Et il est en train d'observer toute sa trajectoire. C'est presque comme s'il était en train d'observer la trajectoire du mât.
Oui, parce que c'est pas, on est d'accord, c'est pas chronologique. C'est
non.
Comme si c'était quelque chose qui venait après. C'est quelque chose, c'est deux plans qui sont en même temps.
Ouais, tout à fait.
C'est
ça. C'est comme deux temps simultanés.
Ouais.
Si on est encore une fois sur cette question de l'usage, l'ermite, c'est celui qui, si on prend la carte comme un appel. C'est celui qui nous ramène sans arrêt à la nécessité d'observer, en fait. De ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on a considéré comme, je sais pas, là tu ramenais le mot usage, mais ça peut être aussi la culture, l'art, enfin tous les gros machins là qui nous tombent dessus. C'est comme si l'ermite il arrête pas de prendre un pas de recul et de côté, tu vois. Et c'est vraiment, je pense que ça a beaucoup à voir là pour ta question, à la question de du point de vue sur une situation.
Et ça pourrait être quelque chose comme un ralentissement.
Ouais, complètement. C'est pas encore très clair, ça va venir. On va se laisser un petit peu de temps. Mais tu vois, c'est se rajouter des régimes de regard. Ça veut pas forcément dire qu'il faut sortir de la situation. En tout cas, là, dans les deux cartes, et vu ta question, ce serait quoi les autres usages de l'art en dehors du champ de l'art? Là, il y a clairement la question du futur. C'est-à-dire que l'art serait quand même un des dispositifs inscrits dans le monde social qui nous permet de fabriquer d'autres récits, de fabriquer d'autres formes. Mais tu vois, il y a cette espèce de pulsion vers le futur, quoi. C'est comme si l'art était un véhicule qui nous permet de l'envisager. Entre les deux, qui est donc la roue de fortune et qui serait ce qui permet, là, dans le jeu, de passer du mât à l'ermite. Alors, ce qui est vraiment très joli, là, c'est que la roue de fortune, c'est l'archétype, en gros, du passage. C'est-à-dire de ce qui permet la fin d'un cycle et l'arrivée d'un nouveau cycle. Hein. La fin de quelque chose et le début d'autre chose. C'est littéralement une roue. Il y a trois êtres très hybrides entre l'homme, l'animal, la figure mythologique, qui sont l'un au-dessus de la roue et les deux autres sur les côtés. Et t'as la manivelle, on appelle ça, enfin ce qui permet de tourner la roue, qui est en fait libre. Hein. Personne ne tient la manivelle. Donc c'est aussi cette idée qu'en fait, ce qui permet ce mouvement ne dépend pas de la volonté des êtres qui feraient tourner la roue. On est vraiment dans cette idée du cycle, et c'est assez intéressant avec notre histoire de futur et de prise en compte du passé pour que ça bouge. Là, il y a vraiment ça. C'est-à-dire on a, en gros, la ressource, l'énergie nécessaire pour faire la jonction entre passé et futur. Il faut de la dynamique, il faut de l'énergie, quoi. Pour moi, là, la roue de fortune, ce serait toutes les ressources qui sont mises en œuvre là, si on parle du projet Villa Medici, mais c'est aussi toutes les ressources que contiendrait cette ville, tout ce qui s'agglutine comme ça, qui converge vers quelque chose qui serait le mouvement, la transformation, et qui est continue. Dans cette carte, c'est vraiment l'instabilité continue. Ça va jamais se figer. Encore une fois, hein, je crois qu'il y a quelque chose dans l'autre que tu indiques là, c'est-à-dire c'est quoi, en gros, où est-ce que l'art travaille en dehors de l'art? C'est quoi ces effets qui échappent à l'art lui-même? Et je pense que c'est comme si là, dans le tirage et avec cette énergie de la métamorphose, il y a vraiment quelque chose qui échappe. C'est, tu vois, et qui se glisse, qui s'infiltre dans tous les espaces du là, on peut dire, du monde social. Enfin, c'est une ville. Des trajectoires vont se tracer. Ça va. Il faut le laisser s'infiltrer. Là, si on le ramène à l'art, alors l'art, encore une fois, c'est un véhicule, c'est un vecteur. Mais ce qui et en fait, il porte une confiance mais monumentale. Dans le possible, ça nous ramène à cette question du futur, mais aussi dans le fait qu'il n'a pas à maîtriser le flux. Tu vois, l'art, c'est vraiment les conditions de possibilité pour que le flux advienne, émerge et circule. Il y a quelque chose là, je pense, de l'infiltration, de la circulation, et ouais, peut-être c'est pas mal la confiance. Là, si c'est Clichy Montfermeil, je trouve que c'est joli cette question de la confiance.
Deuxième épisode de la programmation musicale. En fait, je me suis demandé après, donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme genre de chanson qui jouait sur ces histoires de quadrillage. Ça m'intéresse bien ce truc, même presque par rapport à la manière dont le Grand Paris s'est conçu, etc. La dimension administrative, politique, du découpage du territoire. et comment ça peut être rejoué dans la musique, et comment, par exemple, c'est rejoué très souvent dans le rap, quand on est un rappeur du 9-2, du 9-3, quand le nombre de chansons, de titres de rap qui jouent sur ces notions de département, de lien à un quartier précis, etc. Mais moi, je n'ai pas une grande culture de rap encore, même si j'essaye de me soigner. Et j'ai donc appelé mon expert de rap, qui s'appelle Théo Robin Langlois. Non, je n'ai même pas appelé, j'ai envoyé un SMS. Est-ce que tu connais... Bah, je lui explique tout ça par SMS, ce n'était pas évident. Et il me répond en deux mots, le Grand Paris de Médine. Donc, c'est un titre de Médine avec plein de featuring divers et variés. C'est sur son album Prose Elite, et il y a Youssoupha, Seth Gecko, Alivor Nino, Sofiane Nino et l'artiste. Et on en écoute un extrait parce que c'est hyper long, et ça s'appelle Grand Paris, et le refrain c'est nous le Grand Paris.
La banlieue se débat, traite sur un tas de fumée. Les voies du ghetto sont auto-tunées. Le pied au plancher dans tous les tunnels. Micro 9mm, on va te parfumer. Mon freestyle, c'est le gang des blues. On te fait chier toute la night comme les 4 nuits debout. Ressent le vent qui tourne, arrivé dans ton route. On fait des selfies avec vos radars d'autoroute. Donne un gun à un homme et il braquera une banque. Donne une banque à un homme et il braquera le monde. Je vais crier la gomme sous les murs Matignon en attendant de hacker leur compte. Dès que le cœur d'un grand homme s'arrête, Paris donne son nom à une artère. Moi je suis pour que le boulevard de la Villette soit rebaptisé Bouddha Isayet. J'suis du Grand Paris sans être trop parisien. C'est le grand remplacement des académiciens. J'fais du son pour les cochons végétariens. On fête les émeutes comme tu fêtes la Toussaint.
J'ai fait le tour de la France comme un bohémien. De
Lille à Marseille en passant par là.
Si tu respectes l'histoire, ce drapeau est mien.
Respecte-moi, j'ai la couleur des bras.
Papy t'a défendu, est-ce que tu t'en souviens?
4 ans dans un stade.
Mon frère t'a agressé, y'a que ça que tu retiens. Accepte ta jeunesse, elle a du caractère. Tu vois pas qu'ils veulent voir Paris par terre. Patin qu'on traînera dans ses artères. Patin qu'on traînera dans ses artères. J'arrive en burkini dans une soirée nudiste. J'suis le maillot de Paris sur le dos d'un sudiste. Ils aiment casser du sucre sur le dos des cyniques. Mais on a le fuego, le caramélisme. Big up à Bruxelles, big up à Nice. Ceux qui remontent là à 13, ceux qui remontent là à 6. C'est ma vie, j'fais mon but, j'calcule pas les racistes. Tellement fier de poser sur l'album de Medine. La banlieue influence Paname, Paname influence le monde. Le 9-3 influence Paname, Paname influence le monde. Le Maghreb influence Paname, Paname influence le monde. Oui, l'Afrique influence Paname, Paname influence le monde. C'est nous le Grand Paris. C'est nous le Grand Paris. C'est nous le Grand Paris. C'est nous le Grand Paris.
Hey. Qu'elle brûle, qu'elle repose en paix la justice. J'ai pas fait qu'allumer le cierge. Ton territoire c'est où tu pisses. Ils m'ont plastiqué le siège. Bombe humaine sur la A3-6. Trop de trafic coincé dans les bouchons. Je rappe le box c'est vitré comme aux incises. La rage dans les yeux, la drogue dans les pochons. Y'a les flammes qu'on éteint, y'a les feux qu'on artise. Les vraies femmes, les putains, le diable dans les potions. Y'a les hommes, les fragiles, les rappeurs, les artistes. Sur le macadam, j'éteins ma vie sur un gros son. La rue sur un gros son, j'esquive la partout, je ris pas avec les haines. J'suis partout, je m'évade, j'attends pas leur caution. Leur flow s'attrape comme des maladies vénériennes. En province, je suis parisien. J'suis du 9-5 à Paris. On stoppera pas l'hémorragie, banlieusarde, même avec l'oseille des Qataris.
Ouais, l'ancien fait de la place, j'éteins le Famas. L'arrière Hamas, Kaira, barfeuse de bouche. Personne pour faire la passe, des terres d'Amas. Tu frère Hamas pour que la masse se couche. Dans ma rue, c'est la guerre, ça grouille de Schmitt. Les frères s'embrouillent pour des crasseuses de souche. Suffit d'un geste d'amour pour que la gasseuse te douche. Pour que la rafleuse te touche. Bam, 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 bam. Le public me crie, Achille refait l'histoire de Troie. Je vais mettre tout leur blas sur ma liste, je crois. Entre Tigre et un chat, c'est pas qu'une histoire de poids. Bang, bam, 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 bam. Je me suis fait tout seul dans ça, j'ai tout froid, c'est sans thème. Avant que celui qui t'accroche t'emmène. Même si t'es pas mes wizards, tu peux boxer quand même. Bang, barao, barao, ça détaille la choco. Grande patate, j'ai les gants coquets, j'envoie les revers à Joko. Tu parlais, ta scène balloquée, okay, te passe la commande à porte. J'ai pris le mago, ramène-nous à Chicago, on va les choquer. Bang. Les KR influencent Paname, Paname influence le monde. Le 9-3 influence Paname, Paname influence. C'est nous, on braque Paris. C'est nous, on braque Paris. C'est nous, on braque Paris. C'est nous, on braque Paris.
J'viens pisser sur l'Elysée. J'prends le rein, t'es venu marquer le territoire. Tu parles chinois, moi pas comprendre. Quand l'oseille parle, ils ont tous la même langue. Ray, canoncier, ça va chier. J'm'amuse à braquer le miroir. Ray, avant d'asseoir Marianne sur la corne d'Afrique pour plus qu'elle.
Nous avons vocation à devenir une grande institution à rayonnement international.
Cécile Portier.
Mais nous sommes déjà sur place une petite équipe qui faisons beaucoup de choses, qui portons des dispositifs importants, mais néanmoins qui avons à nous-mêmes apprivoiser ce lieu et à nous faire apprivoiser par les habitants. Voilà, je ne sais pas comment le dire, mais on ne peut pas se poser comme uniquement comme un lieu de valeur. Cette valeur-là n'existe pas ici. Donc il faut travailler les choses autrement, par le sens et par la circulation du sens, par l'infiltration, la dissémination et l'acceptation de la porosité entre les personnes et entre les cultures.
Oui, parce que ça, ce que tu dis quand tu soulignes la différence entre usage social et usage marchand, qui a l'air tellement clair dans l'idée, mais qui en fait dans la pratique demande une espèce de subtilité dans les dispositifs qui sont mis en place, dans les relations avec les gens, peut-être des fois dans des petits détails de presque insignifiants ou pratiques. Du coup, je suis vraiment curieux de comment on fait ça.
On bricole.
On bricole, ouais.
Peut-être que c'est jamais très satisfaisant de bricoler, mais c'est peut-être la seule chose à faire. Je ne sais pas si Malte veut m'aider sur cette question du bricolage.
Oui, parce que quand on a dit tout ça, c'est comment dire, on est effectivement dans des formulations où tout le monde va signer des deux mains. Dans la pratique, c'est bien sûr une matière beaucoup plus fragile. Et le bricolage, le terme, je l'assume dans le sens où vouloir agir comme artiste dans le contexte, dans la cité, veut dire aussi de produire des frottements, veut dire aussi que l'art ne va pas automatiquement produire que de l'adhésion, va pas automatiquement être la jolie fleur sur la table de la cité, mais forcément va produire des moments d'interrogation, d'opposition, mais en fait va produire autant d'émerveillement que de conflit que n'importe quelle autre activité humaine. Et en ça, parfois, j'aime pas quand on parle tout le temps de l'art comme un monde extraordinaire, comme un monde à part. Mais justement, c'est une partie du monde et qui produit, qui fabrique de la vie comme le reste de l'activité humaine.
Tu décris ton point de vue aussi d'artiste, et c'est intéressant parce qu'on utilise le mot usage de parler peut-être aussi de la question des usagers, parce que c'est ça qui est en filigrane en fait derrière le mot usage. Et ce mot usager, il n'est pas toujours simple parce qu'on entend un peu l'usager de la SNCF mécontent des trains en retard. Mais néanmoins, je pense que il est intéressant qu'on est en train de parler à la fois des questions urbaines et des questions artistiques. Parce qu'il me semble qu'il y a finalement un peu la même difficulté à laisser une place à l'usager dans la fabrication de la ville et dans le champ artistique. Et en fait, je pense que quand tu parlais justement du rôle que vous jouez, de ce rôle de bricolage sur Clichy-Montfermeil, quelque part, ce qu'il faut rappeler aussi comme contexte, c'est que vous arrivez en fait un petit peu en précurseur de ces grands bouleversements qui vont affecter en fait la jonction de ces deux villes, avec l'arrivée d'une gare, des travaux importants qui vont quand même modifier considérablement ce qui est en train de se passer, sans que donc évidemment les habitants d'ici vont être des usagers de ces futurs transports, mais en tout cas ils vont pas participer directement à ce qui est en train de se passer comme transformation, et alors que peut-être qu'avec justement arriver un peu précurseur de ce qui sera plus tard une grosse institution, mais qui pour l'instant est une petite équipe, c'est peut-être là, en fait, dans le rôle qui serait donné, en fait, à des personnes qui sont plus considérées comme des spectateurs d'art, mais plutôt comme partie prenante et donc usagers de différentes actions et processus que vous pouvez proposer, qu'il y a quelque chose, je pense, d'intéressant.
Cécile, tu veux réagir par rapport à ça ?
Non, mais je ne sais pas. Je m'interroge sur ce terme d'usager de l'art. C'est-à-dire que, effectivement, je vois bien comment on peut l'employer d'une manière positive. Et en même temps, je pense que ce n'est pas la même chose que d'utiliser un service que le rapport à une expression artistique ou un. C'est quelque chose qui relève plus d'une rencontre et d'une transformation, d'une métamorphose, comme disait Myriam Lefkowitz dans le. Et donc, quelque chose dont on ne ressort pas indemne. C'est-à-dire, ça n'est pas une aménité qu'on peut. Qu'on peut chiffrer dans la valeur ajoutée qu'elle nous a apportée ou dans le désagrément qu'elle a pu nous apporter si jamais elle est défaillante, etc. Donc, même si effectivement on peut mettre en place des dispositifs et des processus où on propose à du public de participer, pour autant j'emploierai pas moi ce terme d'usager. Je trouve qu'il il part sans doute d'un bon sentiment. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est je pense qu'il peut produire quelque chose de néfaste. Personnellement, je pense ça. Mais après, du coup, c'est la question, c'est plutôt comment l'art nous permet effectivement de à chacun qu'on le pratique ou qu'on le vive en le rencontrant et non pas en le consommant. Mais en le rencontrant, comment il nous permet de vivre, tout simplement. Là, effectivement, pour moi, l'art, il est là. Il est quand ça nous permet de vivre, c'est-à-dire de reprendre un peu la main d'écriture sur sa propre vie. Voilà.
Mais effectivement, moi, je suis assez d'accord avec toi. J'aime bien cette idée de rencontre, en fait, plus que d'usage. Et c'est quelque chose qui m'a assez marqué. Enfin, moi, je sais que mon médium, c'est la photographie, et c'est vraiment prétexte à rencontre pour moi beaucoup. Et c'est vrai qu'avant de faire des photos, je parle beaucoup aux gens. Et ce que j'ai beaucoup aimé, ce qui m'a touché moi dans l'approche des ateliers Médicis, c'est que par exemple sur les textes qu'on nous a demandé de produire pour la palissade, on nous a dit voilà, le public est visé, en fait les personnes qui vont venir à la rencontre de vos œuvres, c'est avant tout les habitants de Clichy-Montfermeil. Et moi je sais que le texte que j'ai fait, c'est on nous a demandé plus des anecdotes, des choses de terrain, et pour toucher un public local. Mmh. Et j'aime bien cette idée de rencontre plus que d'usage, effectivement.
Ok, et j'entends bien, et c'est pour ça que je mettais en fait un petit peu des bémols en utilisant ce terme usager, parce que c'est vrai que c'était pour répondre aussi à cette question de départ. Moi-même, je ne l'utilise pas directement. En revanche, je parle d'utilité de l'art. Et je pense que là, je sais que ça peut être, enfin que ça peut avoir un caractère même un peu iconoclaste dans certains contextes, hein, de parler d'utilité de l'art. Mais pour le coup, c'est à travers ce terme-là que moi j'aime bien définir le fait, qu'enfin, en tout cas cette conviction que l'art peut être un instrument. Et encore une fois, le mot est choisi un peu à dessein, en capacité de transformer.
Oui, alors juste dire, mais c'est un mauvais jeu de mots, hein, je l'admets, mais il ne faut pas que pour autant l'art joue les utilités, comme on dit dans cette expression, où c'est une manière d'accessoiriser quelqu'un dans une scène. Voilà. Donc, il est sans doute utile, en tout cas il agit, ça c'est clair, mais prenons garde toujours à ce qu'il ne joue pas les utilités.
Vraiment des travaux partout
ouais. Et là-bas, c'est encore plus impressionnant. Quand on descend vers, c'est ce que je disais, la pelouse, la qualité investie.
Mais là, sur le rouge, c'est horrible.
Enfin, aussi, hein.
Ouais, tout a été chamboulé.
Ah, c'est parce que t'as trop parlé. C'est de ma faute, je te fais parler. Qu'est-ce que c'est alors là, ce qu'on voit, si vous pouvez me décrire
ce qu'on voit. Là, c'est le fameux musée passager. Donc,
On voit bien que c'est... Donc là, on a des espèces de grades en bois. Et c'est une structure, donc on voit bien qui est facilement démontable. Et puis voilà, on voit ces portes-là, bien ouvertes, là, on peut y entrer. Ça a été fait exprès pour qu'on puisse bien comprendre que l'entrée est libre et ouverte à tous.
C'est comment ton... Alors, Justine. Je suis avec Justine.
Ouais, c'est ça.
Si on pouvait décrire cette structure-là.
Alors, donc cette structure-là, c'est une structure qui a été créée par Étienne de France. Il s'agit d'une maquette et il s'agit d'un habitat, un projet d'une maison. Et ce serait une structure flottante, donc qui est prévue pour flotter sur l'eau. Donc, un fleuve, par exemple. Alors, lui, il l'a visualisé, par exemple, qui pourrait flotter sur la Seine, comme on peut le voir sur les photos. Les plans sont liés évidemment à la maquette. Et donc, cette œuvre-là, elle est prévue pour que l'homme puisse vivre en harmonie avec son environnement. Vraiment, qu'il y ait une cohésion entre les deux. Donc, cette maquette, il y a un détail qu'on ne peut pas voir sur la maquette, mais il y aurait un système qui permettrait à l'habitat de filtrer l'eau tout au long de la vie de cette maison. Et donc voilà, ça, par exemple pour la Seine, ce serait forcément utile. Il y aurait également un système de pédalo pour pouvoir avancer. Et puis après, sur la structure de l'habitat, ça a été imaginé pour vraiment que l'homme puisse vivre en autarcie, qu'il puisse vivre, que ce soit autosuffisant. Par exemple, les 4 carrés verts que vous pouvez voir sur chaque coin, ce seraient des potagers où on pourrait cultiver des légumes. Pour cette notion d'autosuffisance. On a également tout autour de la structure, on peut observer des portes transparentes. Donc ça, pareil, c'est pour faire entrer la lumière, pour faire entrer la chaleur, donc pour ne pas vivre fermé par rapport à son environnement, vraiment vivre avec son environnement.
Mais alors, à ton avis, on dort où dans cette maison?
C'est ce qui fait que c'est vraiment un projet utopique. C'est-à-dire que même si on peut regarder sur les plans aussi, disons que l'aspect culture est plus mis en valeur ici que l'aspect habitat, parce que c'est vraiment le projet, le centre du projet même. C'est vraiment un projet qui s'inscrit dans ses idées utopiques, l'habitat dans 150 ans, mais en même temps, les projets aujourd'hui, les voitures électriques par exemple, sont des éléments, il y a un siècle, on aurait dit qu'on était complètement fou d'imaginer des voitures qui pourraient fonctionner sans essence, sans pétrole, et pourtant aujourd'hui ça existe, donc peut-être qu'il s'agit de l'habitat de demain, pourquoi pas, voilà.
Du coup, ça m'amène à ma dernière question sur le lien entre aussi avec la transformation urbaine. Mmh. Et du coup, comment est-ce qu'on peut lier, encore une fois, sur la question des usages, notre sens du mot usage, c'est l'usage de la ville, et la question aussi de l'appropriation de la ville, etc. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur cette espèce de lien un peu fin qui j'imagine qu'il faut établir avec la transformation urbaine?
Je sais pas, la transformation urbaine, elle s'impose au territoire, donc elle s'impose à nous, parce que à partir du moment où on développe le projet ici, eh bien, on est immergé totalement dans ce contexte. Mais cette situation, elle est extrêmement complexe, elle réunit énormément d'acteurs différents. Les habitants voient plus ou moins clair sur ces transformations et leur calendrier, sont plus ou moins impatients, plus ou moins... Et on doit s'insérer dans ces chantiers.
C'était un chantier, en fait, c'est un chantier de plus parmi les... Du coup, en un sens, c'est peut être propice à ce que les gens entendent que, finalement, la construction... là, ici, d'une institution culturelle, ça puisse être aussi un chantier...
Ah, c'est un chantier,
Qui prend, du coup, du temps, au même rythme que les travaux qui sont dans la ville.
C'est presque un cercle de Möbius, mais en tout cas, ça se renverse, ça se retourne, etc., ça se rejoint, parce qu'on vient pour travailler... Enfin, évidemment qu'on prend acte de cette situation de chantier permanent tout autour de nous, on en ajoute... on ajoute une pierre au chantier, enfin... on augmente cette dimension. Voilà. On est dans le chantier, nous-mêmes en chantier, ça c'est clair.